Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'homme grandit dans une importante famille d'industriels protestants à la tête d'un groupe tentaculaire. Les enfants, comme des Dalton tirés à quatre épingles, ont leur gouvernante, les parents ont des bonnes. Un grand appartement en ville, une propriété au bord de la mer, avec des dépendances. Le père, qui est en fait son beau-père, est puissant, brutal, pas drôle. Il roule en berline et couche avec les bonnes. C'est un peu Fanny et Alexandre de Bergman. Le jeune homme admire le grand homme froid et le craint. Alors, au moment de décider sa vie future, il ne choisit pas. Il suit la trace, il étudie le commerce et reprend une partie du groupe familial sans jamais se poser la question de la vocation, du désir, de ce qu'il aurait voulu faire quand il serait grand. C'est un peu les Buddenbrook de Thomas Mann. L'homme passe une vie de chef d'entreprise sans panache, trop honnête, un peu naïf même, sans imagination. Il consacre tout son temps à un travail qu'au fond il n'aime pas et pour lequel il n'est pas particulièrement doué. Il ne compte pas ses heures. La seule excentricité qu'il se permet, c'est son mariage. Il épouse une étrangère pauvre, mais plutôt marrante. Mais sa vraie passion, ce sont les roses, les fleurs et les autres plantes folles qu'il fait amoureusement pousser pendant des années et soigne avec dévotion et talent. Au moment de quitter son travail, après 40 ans de loyaux services à un groupe qui n'est même plus familial, il se rend compte que c'est jardiner le travail qu'il aurait aimé faire. Que sa vie aurait pu être différente, qu'il a fait fausse route. Mais c'est trop tard. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, deux autres histoires de fausse route qui auraient pu arriver à tout le monde. Deux histoires dans lesquelles, heureusement, eux ont su bifurquer au bon moment, changer de chemin, se réorienter, trouver la bonne voie après s'être fourvoyé. Deux histoires racontées par Élise Andrieux et diffusées pour la première fois le 12 janvier 2016.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je me trouve dans un très beau jardin, sous un beau soleil d'automne. Alors, mon histoire, elle démarre quand j'avais 20 ans. J'étais étudiante. Et au cours de mes études, j'ai rencontré un jeune homme qui représentait vraiment tout ce que j'attendais d'un homme, élégant, intelligent, doux, attentionné, un peu taciturne aussi, et c'était pas pour me déplaire. J'ai démarré donc une histoire avec cet homme et on s'est aimé très fort tout de suite. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais connu, ni lui ni moi. C'était presque un premier amour, on pourrait dire. Et puis, la confiance aidant, en fait, assez rapidement, au bout d'un an peut-être, il m'a avoué qu'il avait depuis des années, depuis son adolescence, des attirances homosexuelles. Ça m'a beaucoup troublée, mais à l'époque, il m'a tout de suite rassurée en me disant que bon, de toute façon, il était très amoureux de moi et qu'il n'avait pas du tout en tête un quelconque passage à l'acte. Ce qui comptait, c'était la relation avec moi, mais voilà, il voulait m'en parler pour que je sache vraiment tout de lui. Est-ce que c'était bien la vie qu'il voulait ? Ou est-ce qu'il était prêt à renoncer définitivement, à avoir dans sa vie un jour une histoire avec un homme et à s'engager pleinement avec moi ? Et ça l'a rendu triste en fait, ça l'a rendu malheureux, tellement malheureux qu'il a fini par tomber en dépression. Parfois je rentrais le soir, je le retrouvais en pleurs, tout seul dans le canapé, dans le noir. Et je commençais à me demander si je devais rester avec lui. Et j'ai pas pu partir. Comment je pouvais quitter un homme que j'aimais, quoi, même si cette relation commençait à devenir toxique pour moi. Je n'avais pas envie d'en entendre parler. Parce que je crois que quand on n'en parlait pas trop, par moments, ça m'arrivait d'oublier le problème. J'ai pensé comme ça, tout le temps. Et c'était du déni, tout simplement. Ouais. Et puis, sa dépression a duré un an, peut-être un an et demi. Du coup, il m'a dit, effectivement, je pense que le mieux, ça serait que je ne choisisse pas. mais voilà, je t'aime, je veux passer ma vie avec toi. Par contre, à côté, peut-être que ce qui serait bien, c'est que j'ai peut-être ponctuellement une relation avec un homme. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, bah, allez, il va le faire, il faut le faire, c'est une expérience. Bon, j'avais pas trop le choix non plus. Et ça m'a pas paru comme étant de la tromperie. Alors un jour, on était assis tous les deux dans le canapé, il m'a dit « bon ben voilà, il faut que je te parle de quelque chose ». Donc là, je me suis sentie devenir toute raide et toute stressée, j'avais une petite idée de ce dont il allait me parler. Et il me dit « bon ben voilà, ben ça y est, je l'ai fait ». Évidemment, la première question que je me suis posée, c'est comment il avait rencontré cet homme, qu'est-ce qu'ils avaient fait, est-ce qu'ils allaient se revoir, c'était ma grande inquiétude. Et je lui ai dit « alors, qu'as-tu appris ?» Et il m'a répondu qu'en fait, l'expérience était un peu ratée parce qu'il avait tellement peur, notamment du sida, qu'il avait été très très stressé, malgré les préservatifs, les protections, très très stressé par ça et que du coup, il n'en avait pas profité. C'était choquant. Sur le moment, je me suis dit que c'était vraiment... Enfin, j'étais très en colère contre lui, en fait, parce que... Il allait encore s'en tirer par une situation, on va dire, floue. Et pendant les semaines qui ont suivi, on n'en a plus reparlé. Il n'en a plus été question pendant un moment. Et lui allait mieux. Donc la dépression était terminée. Et puis finalement, il m'a demandé en mariage. C'était une drôle de demande. Bon, la soirée était ratée de toute façon, c'était une catastrophe. On avait ouvert du foie gras qui était immangeable. On avait reçu des livreurs très tard le soir qui nous avaient cassé au milieu de la soirée. Enfin, et il ne m'avait pas offert une bague, il m'a offert un collier. Très beau au demeurant, mais quand même pas une bague. Et j'ai trouvé ça gênant. Un collier, comme si on n'allait pas vraiment au bout de la demande. Et dans le même temps, en fait, mon compagnon avait commencé à me reparler de que voilà, il était à nouveau tourmenté par ses attirances pour les hommes et que la première expérience qu'il avait eue ne lui suffisait pas pour décider qu'il allait devoir recommencer. Bon, de toute façon, je voulais y croire, hein, donc je mettais tout ce que je pouvais dans la balance pour que ça fonctionne. Et puis je me disais en même temps que c'était une grande souffrance pour moi. Je l'enfouissais au plus profond de moi. Parfois, je pleurais toute seule. Parfois, je me disais que c'était ma croix, mon destin. Peut-être c'était ça. De l'imaginer faire l'amour avec des hommes, ça me dégoûtait. Et j'ai eu de nombreuses discussions avec lui là-dessus en lui disant « Mais qu'est-ce que tu trouves de si important dans cette sexualité que tu ne trouves pas dans la nôtre ?» Certes, ce n'est pas tout à fait les mêmes pratiques, mais il me disait que je pouvais pas trop comprendre, oui, que c'était différent, que le torse d'un homme, c'était très beau. Il avait un peu de mal, en fait, à m'expliquer. Et il m'a dit que c'était comme ça et qu'il fallait l'accepter, qu'il ne pouvait pas faire autrement. Donc finalement, on s'est mariés, mais voilà, c'est ça, le pacte, c'était... Moi, je lui ai dit, ok, je me marie avec toi à condition que tu acceptes qu'on ait des enfants. Et lui m'a dit, dans la balance, je mets le fait que toi, tu acceptes que j'ai des relations homosexuelles. Et puis, par rapport à mon évolution professionnelle, un jour, j'ai souhaité avoir une formation de coach. Avant, j'étais consultante en organisation. Et puis, ce que j'ai petit à petit compris, c'est que cette formation, quand je l'ai suivie, ça a duré un an, elle m'obligeait en fait à travailler sur moi-même. Et puis, un jour, il y a eu un exercice qui m'a beaucoup marquée, avec une jeune femme d'ailleurs avec qui je suis restée en contact. Elle m'a fait dessiner une fleur, une marguerite. C'était moi, telle que je me vois aujourd'hui. Donc il y avait moi la professionnelle, il y avait moi la femme de mon mari, etc. Donc je dessine mes pétales, Elle a regardé ma fleur et elle a éclaté de rire. Elle m'a dit, t'es sûre que t'as pas oublié une pétale? Alors je regarde. Bah non, je voyais pas. Elle m'a dit, bah, et toi, l'amante, la maîtresse, enfin, toi, la femme qui a une sexualité, quoi, finalement. Eh bien, je me suis dit que j'avais fait une croix sur la vie intime, en fait, avec mon mari. Donc ça a été, je dirais, le premier coup de canif dans mes certitudes. Et donc j'ai pris mes distances avec lui. Et il l'a senti, mais il l'a bien vécu. Il m'a laissé prendre mes distances. Et je me suis dit qu'il n'y avait plus tellement d'amour entre nous. Je me disais que peut-être ça allait revenir. Une relation de 15 ans comme ça, je n'allais pas en un mois décider de tout arrêter. Mais sauf qu'en fait, c'est quand même bien ça qui était en train de se passer, quoi. Et donc, au mois d'août, quand on est revenu de vacances, je lui ai annoncé que je ne l'aimais plus et que j'allais le quitter. Je lui ai dit dans la voiture, je me souviens, on était tous les deux en train de revenir de Bretagne. Et il a fondu en larmes. D'ailleurs, j'ai eu peur qu'on ait un accident parce que fondre en larmes au volant, il a beaucoup pleuré et il a eu des paroles de grande lucidité à ce moment-là, en me disant qu'il avait conscience qu'il m'avait fait beaucoup souffrir, mais que j'aurais dû partir il y a longtemps déjà. Et donc je suis partie, on va dire, du jour au lendemain. C'est allé extrêmement vite, extrêmement vite. Et là, cette période-là, pour moi, a été une période de libération extraordinaire. Et petit à petit, j'ai revu tous mes amis, mes parents, bien sûr, et je leur ai expliqué l'histoire, les plus proches. Et j'ai suscité des tas de commentaires de « mais comment as-tu fait pour supporter ça pendant toutes ces années ?» quoi. Quand j'ai expliqué autour de moi que voilà, bon, j'ai quitté mon mari pour différentes raisons, parce que je m'ouvrais de cela à mes proches et à mes collègues, voilà. Et en fait, parmi ses collègues, eh bien, il y en a un qui petit à petit, s'est un petit peu rapproché. Et puis qui, un jour, il m'a avoué qu'en fait, il était très amoureux de moi. Et depuis des années, en fait, depuis qu'il était rentré dans cette entreprise, et ça faisait presque 4 ans, il avait eu le coup de foudre. Et qu'il n'avait jamais osé me le dire parce qu'à l'époque, je venais de me marier. Et je suis tombée amoureuse de cet homme très beau, très protecteur, un homme qui faisait l'homme, quoi, tout simplement. Et donc ça, c'était il y a 2 ans. Et on a pris la décision de s'installer ensemble. On a fait un très très grand voyage. Enfin, on a changé nos vies. On a démissionné tous les deux de l'entreprise où on était. Et puis on s'est dit, pourquoi attendre? On s'aime tant, et si on avait un enfant, maintenant? Donc on a pris cette décision, et ça a marché tout de suite. Et voilà, et j'ai accouché au mois de septembre, le 1er septembre. Ma petite chérie. Hop là. Voilà, elle a 2 mois. Là, je suis très très heureuse. Et l'homme avec qui je suis est heureux avec moi. Et ça, c'est tellement important. Parce qu'en fait, mon ex-mari n'était pas heureux avec moi. J'ai eu de temps en temps de ses nouvelles. Je sais qu'il s'est tourné vers les hommes de façon exclusive. C'est comme ça, notre relation, elle est terminée maintenant.
On va faire un petit tour sous les arbres, là où il n'y a pas trop de soleil.
Et oui, elle a sa toute petite main qui s'agrippe à mon foulard.
Il y a les arbres, les autres enfants qui jouent. Oh. Ça, c'est pour quand tu sauras marcher.
France Culture, les pieds sur terre. Bah, quand j'étais petit, je me souviens, j'avais 7-8 ans, j'aimais beaucoup les militaires. Et je serais bien devenu militaire. Et puis quand j'ai eu 10 ans, notre famille a déménagé. On était en région parisienne et nous avons déménagé à Nancy. Et il s'est passé quelque chose. En une journée, j'ai su ce que je voulais faire de ma vie. J'étais à la messe dans une église de la banlieue de Nancy. Et pendant cette messe-là, je rêvassais, comme souvent, je rêvais à des choses. J'avais un intérêt très fort pour la foi, pour Jésus-Christ, etc. Et pendant cette messe-là, je me suis imaginé, c'était en 1983, j'avais 10 ans, je me suis représenté la détresse des chrétiens qui vivaient en URSS à l'époque, qui ne pouvaient pas vivre leur foi librement, et ça me révoltait intérieurement. Et je me suis figuré aller rencontrer le numéro 1 soviétique qui s'appelait Yuri Andropov, aller le voir, me mettre face à lui et lui dire « c'est vraiment pas juste, c'est vraiment affreux ce que vous faites ». Et ça, je me suis dit « ça, je peux le faire seulement si je suis prêtre ». Et le soir même, je me suis dit « mais en fait, c'est ça mon désir profond et le plus fort, ça serait de donner ma vie comme prêtre catholique en l'occurrence ». Quand j'étais en terminale, je me suis dit « ça y est, enfin, je vais pouvoir entrer au séminaire, puisqu'on peut entrer au séminaire après le bac ». L'entrée au grand séminaire de Nancy a commencé par une session de 15 jours. Et puis moi, j'étais tout heureux, surtout, c'est ça, je jubilais. Enfin, j'étais, pour la première fois, ma vie, c'était ce que j'avais voulu qu'elle devienne. La deuxième année, par contre, j'étais angoissé plus parce que je savais pas ce que j'allais faire l'année d'après. Parce que je voyais que mon désir était toujours là, mais ma vocation ne se précisait pas. Et puis au bout de ces 3 ans, j'étais tout le temps au même point, donc c'est comme si je faisais du surplace. Et donc c'était le temps du service national. À l'époque, il était obligatoire. Je suis parti à Madagascar pour être professeur de français et de philosophie pour des religieux capucins en formation. À l'époque, je cherchais mon chemin. J'étais jamais en repos. Et au cœur de ce séjour à Madagascar, je me suis inscrit à une retraite spirituelle. C'était une retraite accompagnée, individuellement, où je rencontrais un accompagnateur 2 fois par jour. Et en fait, les 2-3 premiers jours, dans ma prière, il y avait beaucoup d'angoisse. Et j'en ai donc parlé à ce moment-là à cet accompagnateur spirituel. Il m'a dit « bon, bah écoute, tu vas aller marcher là, surtout, il m'a pas dit ça, mais surtout tu pries pas, mais à la fin de ta marche tu vas noter ce qui s'est passé, ce que tu as vécu, à quoi tu as pensé, quelles ont été tes pensées ». Alors j'ai marché, je me suis éloigné dans la campagne, nous sommes sur les hauts plateaux de Madagascar, il n'y a pas beaucoup d'arbres, mais justement à cet endroit là il y a une petite forêt d'eucalyptus, les couleurs sont plutôt pastel, la terre un peu rouge. Et voilà, je marche et je passe devant une croix, un grand crucifix blanc, et je me dis, oh là là, le Christ a donné sa vie jusqu'au bout, et moi, là, je suis là devant cette croix qui représente ce don total, et j'arrive toujours pas à me bouger pour me donner comme lui à sa suite, comme je le désire depuis si longtemps. Et j'étais désolé, ouais, j'étais triste. Et c'est là que j'ai fait face à cette foi handicapée, trébuchante, où j'ai senti à quel point il me manquait la foi. J'avais la vocation, je croyais avoir la vocation, mais j'avais pas la foi. Et j'ai imaginé systématiquement toutes les possibilités, prêtre, donc. Prêtre diocésain, prêtre religieux ou pas prêtre, donc fidèle laïque, laïque marié, pas marié, tel métier, je pourrais faire réalisateur audiovisuel parce que j'aimerais bien, ou je pourrais faire professeur des écoles, etc. J'ai fait défiler toutes ces possibilités tout en marchant. Et j'ai repensé à une photo d'une jeune fille que j'avais vu chez un très bon ami. En fait, je la connaissais déjà. J'étais tombé un peu amoureux d'elle un an avant. J'avais eu des sentiments pour elle, mais c'était juste un peu le béguin, je la connaissais pas vraiment. Je l'avais vue dans une soirée étudiante à Paris. Et ça a commencé à éveiller en moi de la joie. Et dans la nuit qui a suivi cette longue marche, bah, la moitié du temps, nuit blanche, je pensais à ce visage, et tout d'un coup, j'ai été traversé de part en part, si vous voulez, imaginez. J'étais allongé, c'est comme si de la lumière me traversait le corps, là. Le corps au niveau du cœur. Hein. On traversait les côtes, des rayons de lumière qui me traversaient, de joie immense, à l'idée que je puisse vivre une relation amoureuse avec cette jeune femme. Et ça a duré des heures et des heures, pendant 3 jours ininterrompus. Heureusement que c'est pas comme ça tout le temps, parce que je me disais que je pourrais jamais avoir une vie normale en étant aussi puissamment ébranlé, quoi. La différence, c'est que je me sentais vivre alors qu'avant je me sentais un peu mort. À l'issue de cette retraite, tout était tellement clair que j'ai immédiatement annoncé à mes proches que je quittais le séminaire. Donc, j'ai compris que mon chemin, c'était de me marier, d'avoir peut-être des enfants, si on pouvait avoir des enfants, et d'avoir une vie, entre guillemets, normale, alors qu'avant, je rêvais d'une vie exceptionnelle, finalement, puisque prêtre, c'était pour moi quelque chose d'exceptionnel, un peu comme si je voulais être un super-héros, un super-héros spirituel. Et là, j'aurais une vie banale, mais c'était là où j'avais de la joie. Alors là, après, l'aventure a continué. Et quand je suis revenu, cet ami qui m'avait tellement fait la publicité de son excellente amie, m'a accueilli et m'a expliqué qu'en fait, elle allait se fiancer, en fait. Donc c'était râpé. La piste était à oublier. Sur le coup, j'étais triste, j'étais déçu. Après, bah, petit à petit, voilà, j'ai repris des études. Et puis finalement, j'ai senti le célibat long, mais avec le recul, il n'a pas duré extrêmement longtemps. Parce que au printemps 99, soit un an après mon retour, dans une marche, j'ai vu une étudiante dont j'ai vu qu'elle était probablement d'origine malgache. Et puis, eh bien, on a fait connaissance, on a échangé nos adresses. Et j'éprouvais avec elle, en sa présence, la même joie, si vous voulez, que la joie vécue pendant la retraite. Et puis, en janvier 2000, je lui ai avoué tant bien que mal ma flamme. Pour ça, il faut regarder Magic in the Moonlight de Woody Allen. Vous verrez comment je suis capable de faire une déclaration amoureuse. C'est-à-dire très très mal. De telle sorte que l'autre comprend même pas ce que je voulais dire. Moi, j'ai pas compris qu'elle avait pas compris. Comme elle est très souriante et qu'elle est restée zen et qu'elle a souri, j'ai cru qu'elle avait compris. Donc, à l'issue de cette déclaration de flamme mémorable, elle était complètement déroutée et moi, j'étais très heureux. Aujourd'hui, ça fait 16 ans que je connais ma femme, qui s'appelle Rita. Un an après notre mariage, on a accueilli notre premier enfant, qui était un fils. Et puis après, on a eu un deuxième fils. Et puis ensuite, on a eu une fille. Et j'en suis extrêmement heureux. Et d'autant plus heureux, je crois, que je m'étais imaginé pendant 14 années que jamais j'aurais d'enfant. La joie que j'ai vécue à Madagascar m'a rappelé un film que j'avais vu des années avant et qui me plaisait beaucoup, qui s'appelle Les ailes du désir de Wim Wenders, qui est très connu. Et dans ce film-là, l'ange principal, je me reconnaissais beaucoup dans son attitude de compassion. Ça me touchait beaucoup. Et Et cet ange-là, il finit par tomber amoureux d'une humaine. Et comme il décide d'aller plus loin, de la rejoindre dans la chair, il y a une image rigolote. C'est que tout d'un coup, le film passe du noir et blanc à la couleur pour montrer qu'il a pris chair, qu'il n'est plus ange mais qu'il est homme. Et puis, à côté de lui, on entend un bruit de casserole. Et de mémoire, le film montre une cuirasse qui est tombée du ciel, comme s'il avait perdu son statut, sa prestance, son pouvoir d'ange. Et moi, quand j'ai vécu cette expérience, j'ai eu l'impression comme ça de prendre chair et de quitter, donc d'être vraiment homme parmi les hommes, enfin, plus être à côté comme des yeux mais sans corps. Et puis j'ai perdu aussi une armure, quelque chose qui me protégeait de quelque chose que je pouvais pas encore vivre, mais enfin j'étais prêt à le vivre.
C'était Fausse Route, un reportage d'Élise Andrieux réalisé par Éric Lancien, au mixage Cédric Chanteluce. Merci à Diane et à Grégoire, c'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Zoé Marie Roulier, notre stagiaire. Merci également à François Connac qui s'est occupé de cette rediffusion.
Tales of a widow in a thimble made of glass. And your mama and your papa, they can kiss your ass. Poison all the water in a wishing well.